Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une série de textes poétiques, Sarlat insolite, itinéraire imaginaire et poétique au cœur du Périgord noir. L'idée, c'est vraiment de saisir l'essence de ce que ces textes racontent. Pas juste Sarlat, la ville touristique, hein, mais un lieu qui est présenté comme une porte d'entrée, un espace qui vibre de mémoire, de mystère. La poésie dit même que cet univers frissonne dès qu'on passe le seuil. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière ça. D'accord? Alors, si on essaie de déballer un peu ça, l'idée qui ressort, c'est que Sarlat, c'est pas juste un décor, c'est presque une entité vivante. Le temps, la mémoire, c'est pas linéaire, c'est tangible, physique presque. On nous parle d'une orée qu'on traverse, un passage où les pierres, elles se souviennent vraiment, et les ombres murmurent des choses. Et puis cette image, elle a des escaliers qui mènent à des templiers, un peu comme si différentes époques pouvaient se toucher.
S'entremêler.
C'est assez vertigineux comme vision, non?
Ah oui, absolument. Et cette idée, elle imprègne tout le recueil, en fait. Ce qui est fascinant, c'est cette personnification, constante. Pas juste de la ville, mais de ses éléments. Prenez la lanterne des morts, par exemple. Elle n'est pas décrite comme un monument inerte. Pas du tout, non. Elle écoute, elle se souvient des prières, des pas, des chants oubliés. C'est faux! Les pierres elles-mêmes, elles auraient une âme. Elles garderaient les serments perdus, les secrets, quoi. La mémoire, c'est pas une archive, c'est vivant. Ça respire, presque.
Et ça va même plus loin que les objets, on dirait. Parce qu'il y a ces présences, un peu étranges. Une femme derrière une porte qui n'existe pas. Cet enfant au capuchon qui a l'air d'être entre deux mondes. Ou ce moine qui flotte et qui murmure un mot inconnu mais familier. C'est quoi ça? Des fantômes? Ou, enfin, autre chose?
C'est une excellente question, justement. Il pourrait incarner ces fameux templiers dont vous parliez, oui, des échos d'autres époques, des fragments de vie qui persistent. Les textes parlent d'ailleurs des templiers comme des tissants de l'invisible. Leurs ombres danseraient encore.
Ah oui?
Oui. Et puis, il y a ce personnage, Soléa, la veilleuse, très intrigante. Elle est décrite comme née d'aucun temps. Capable de percevoir le passé, le présent, l'avenir, tout en même temps.
D'accord.
Elle navigue entre ces strates, elle entend même un nom, Tissandre, murmuré par le temps lui-même. Ça suggère une réalité bien plus complexe, quoi, stratifiée.
Oui, ça fait écho à la façon dont l'histoire est partout, mais toujours un peu voilée, presque insaisissable. On sent les manuscrits interdits sous l'hôtel Savignac. La maison de la Boétie qui murmure liberté, la fronde vécue comme une pièce de théâtre. Même le médecin de la peste ou la crue de l'accuse qui charrie la mémoire. Tout ça participe à cette ambiance où le passé est, il est là, actif.
Exactement. C'est une superposition constante. Le visible, l'invisible, l'histoire et la légende. Les ruelles, c'est pas juste des chemins. Ça devient des veines palpitantes qui nous cherchent, qui nous attirent. L'auteur imagine même un marché aux ombres. On n'y échange pas de l'argent, mais du sens, des souvenirs.
Un marché aux souvenirs.
Oui, impalpable. Même la Félibrée, cette fête occitane bien réelle, elle est vue comme une répétition pour ne pas perdre une langue secrète. Tout est signe, tout est murmure potentiel. Donc, en résumé, cette plongée dans Sarlat insolite, ça nous donne une vision très particulière de Sarlat. C'est un lieu réinventé. Le passé n'est pas juste commémoré, il est actif. Juste sous la surface, un endroit où la pierre écoute, où les frontières entre les temps sont poreuses, incroyablement poreuses. Finalement, ces textes, ils invitent à une écoute différente, à percevoir au-delà de l'évidence.
Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, assez intrigante, soulevée par les textes eux-mêmes d'ailleurs. Ils suggèrent que les objets aussi se souviennent, ce miroir qui pourrait refléter un autre visage. Alors, si les lieux, les choses ont une mémoire si active, si palpable, comme le dit la poésie, est-ce que c'est une mémoire passive, juste une empreinte, ou bien comme ces vers semblent le suggérer? Cette mémoire, est-ce qu'elle a une forme de conscience? Est-ce qu'elle observe? Est-ce qu'elle interagit même subtilement avec nous aujourd'hui? Quels échanges invisibles pourraient avoir lieu là, maintenant, dans ces ruelles? Voilà une pensée à emporter peut-être.